Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La reprise des hostilités cette nuit au Moyen-Orient en alerte, échange de frappes entre Américains et Iraniens, ce n'est pourtant pas le retour de la guerre, disent les États-Unis qui espèrent toujours un accord. L'avocat des parents de Liana qui interpelle le gouvernement et cible Emmanuel Macron, regrettant un manque de moyens accordés à la justice. Et à J-1 de la Coupe du Monde, les Bleus vont s'envoler pour les États-Unis, direction leur camp de base à Boston.
La tension remonte d'un cran ce matin au Moyen-Orient.
Des bases américaines ont été visées dans le Golfe par l'Iran, qui a répliqué à ces frappes menées par les États-Unis dans la nuit après la destruction d'un hélicoptère américain imputé à Téhéran. On va prendre la direction de Washington. Antoine Hollard, vous êtes le correspondant d'RMC sur place. De nouvelles frappes qui pourraient faire penser à un nouvel embrasement de la région. Ce n'est pourtant pas la volonté de Donald Trump.
Oui, les forces américaines ont lancé une série de frappes contre des cibles militaires, notamment le long du détroit d'Ormuz. Ce sont des radars ou encore des défenses anti-aériennes qui ont été visées. Alors attention, ça n'est pas le retour de la guerre à grande échelle. Ce sont des frappes limitées. Le commandement militaire américain évoque une action, je cite, « proportionnée » après l'attaque iranienne contre un hélicoptère américain. Il y a clairement la volonté du côté de Washington de ne pas provoquer une escalade. Trump, on le sait, ne veut surtout pas reprendre les hostilités. Il veut un deal avec Téhéran. Ce qui l'a poussé ces derniers jours à ne pas répondre aux provocations iraniennes pour ne pas compromettre la diplomatie. Mais là, il ne pouvait pas rester les bras croisés et en ordonnant cette riposte, il montre qu'il y a des limites à ne pas franchir. Malgré tout, malgré cette montée de tension, Trump veut toujours croire qu'un accord est possible et qu'il pourrait être conclu dans les prochains jours.
Antoine Hollard, à Washington ce matin pour RMC. On en vient à ce nouveau rassemblement à Saint-Jean-d'Angély, hier soir, marche blanche en hommage à Liana, organisée par les grands-parents de la jeune adolescente de 11 ans retrouvée morte la semaine dernière dans le Gers. Un drame qui aurait pu être évité. C'est ce que dit l'avocat des parents de Liana dans une conférence de presse. Il a dénoncé l'hypocrisie du gouvernement avant d'interpeller le chef de l'État, lui reprochant, Victor Girard, un manque de moyens.
C'est directement au chef de l'État que s'est adressé l'avocat de la famille de Liana, maître François Rougeau de Boubet.
Par ma voix, cette famille endeuillée souhaite envisager les véritables responsabilités, celles des moyens qu'on accorde à la justice et à leur efficacité. Car oui, monsieur le Président, c'est le vrai cœur du problème.
L'avocat défend la gendarmerie du Gers et le parquet d'Auch mis en cause dans l'affaire, mais dont le travail a permis de localiser le corps de la collégienne, souligne-t-il.
Retrouver son corps tient du miracle. Et combien de parents n'ont pas eu cette chance? Si la justice avait eu plus de moyens, ce drame et tous les autres auraient pu être évités.
Maître François Rougeau de Boubet répond également à Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, qui a demandé aux procureurs généraux de reprendre en urgence l'intégralité des plaintes impliquant des enfants.
Étudier 70 000 plaintes d'ici le 14 juillet, c'est de la poudre de perlimpinpin. Et j'espère que personne n'est dupe, c'est impossible, à moins de mal faire son travail.
Avant de conclure, je cite, que chacun prenne ses responsabilités, même au plus haut sommet de l'État.
Et le gouvernement qui répond en partie à l'émoi provoqué par cette affaire, ouvrant la voie à la fin de la prescription pour les crimes sexuels sur mineurs. Sébastien Lecornu lui a dévoilé les premières mesures intégrées au projet de loi sur la protection des enfants afin de permettre des enquêtes plus rapides et des peines plus lourdes. Dans le même temps, notez que le chef de la gendarmerie a reconnu un échec de l'institution en raison des plaintes déposées à l'encontre du principal suspect dans cette affaire.
RMC 7h04, la garde à vue de Patrick Bruel va prendre fin.
Interrogé sur le contenu de 13 plaintes déposées contre lui pour viol et agression sexuelle, l'interrogatoire du chanteur va se terminer aux alentours de 8h30. Pierre Bazin du service police-justice nous rejoint. Patrick Bruel sera déféré dans la foulée, présenté à un juge d'instruction après 48 heures d'audition.
Oui, il sera alors question d'une possible mise en examen du chanteur pour des faits de viol et d'agression sexuelle. Une présentation qui peut prendre un peu de temps et intervenir plus tard dans la journée, puisqu'avant le passage de Patrick Bruel devant le juge d'instruction, ses avocats vont découvrir l'intégralité du dossier et devoir préparer des arguments de défense. À l'issue, s'il est mis en examen, c'est un juge des libertés et de la détention qui décidera cette fois de laisser le chanteur libre sous contrôle judiciaire ou de le placer en détention provisoire. Pour cela, le juge va évaluer notamment le risque de pression sur témoins ou de réitération de l'infraction. Mais ce qui est certain, c'est que peu importe l'issue de cette journée, Patrick Bruel n'en a pas fini avec la justice. Au moins 5 nouvelles plaintes ont été déposées ou vont l'être très prochainement pour des accusations similaires, selon plusieurs avocates.
Et ne manquez pas à 7h40 sur RMC le point avec la journaliste de Mediapart qui travaille sur cette enquête depuis 7 ans, qui avait révélé le dossier. 30 femmes qui ont donc témoigné et au moment où l'on se parle, au moins 14 plaintes contre Patrick Bruel.
Un incendie dans une cellule de la prison des Baumettes à Marseille fait un mort et deux blessés. La thèse du suicide et de l'un des détenus est à cette heure privilégié par les enquêteurs. La grève à la SNCF ce mercredi avec de fortes perturbations à prévoir si vous circulez en région. Ce sera le cas notamment sur les lignes du RER. En région parisienne, à l'échelle nationale, comptez un intercité sur deux et deux TGV sur trois. L'Irlande du Nord, secouée par de violents affrontements. Hier soir à Belfast, en marge de manifestations anti-immigration après une attaque au couteau imputée à un réfugié soudanais. Des appels à manifester lancés sur les réseaux sociaux par plusieurs figure de l'extrême droite britannique.
À plusieurs endroits dans la ville, des centaines de manifestants, pour beaucoup visages masqués et tout de noir vêtus, installent des barricades. Ils mettent le feu à plusieurs voitures. Dans l'ouest de Belfast, c'est un bus qui est incendié. Plusieurs habitations ont pris feu à cause de poubelles incendiées, de jets de cocktails Molotov. Les habitants ont été évacués. Des incidents que déplore la première ministre nord-irlandaise. Des hommes masqués brûlant des maisons de famille, ce n'est rien d'autre qu'une lâcheté répugnante, dénonce-t-elle. Tout cela fait suite à une attaque au couteau lundi soir par un réfugié soudanais, blessant gravement une personne. La vidéo de l'agression avait ému et choqué tout le pays. Plusieurs figures de l'extrême droite ont encouragé à manifester et les autorités qui ont appelé au calme hier n'ont pas pu empêcher ces débordements.
Un détail et précision de Lucas Laubert. Des manifestations aussi à Mexico. Des milliers d'enseignants ont bloqué l'accès au stade Aztec avant de se disperser hier soir dans le calme. C'est là que se tiendra demain le match inaugural de la Coupe du Monde entre le Mexique et l'Afrique du Sud.
Les Bleus, eux, ne joueront pas au Mexique, mais aux États-Unis.
Ils vont s'envoler à 13h, départ du Bourget direction Boston pour cette Coupe du Monde. On retrouve sur place notre envoyé spécial, Valentin Jamin. Vous allez suivre les premiers pas des joueurs de l'équipe de France sur place. Quel est le programme, Valentin ?
L'équipe de France ira directement à son hôtel à son arrivée, hôtel qu'elle occupera toute la compétition. L'arrivée est prévue ici en milieu d'après-midi, heure locale. Aujourd'hui, ce sera donc installation puis repos hein, pour récupérer du voyage de ces 6 heures de décalage horaire dans cette résidence 5 étoiles à la façade en pierre rouge qui est donc en plein centre de la ville, juste à côté du grand jardin public. Les Bleus connaissent, ils y ont déjà séjourné lors de leur tournée américaine en mars. À l'intérieur, ils ont deux étages privatisés uniquement pour les chambres, avec aussi une salle de fitness, des bains froids, des salons privatifs et même une chambre de cryothérapie pour gérer la chaleur. Des membres du staff sont d'ailleurs déjà sur place depuis plusieurs jours pour que tout soit en place à l'arrivée des joueurs et à partir de demain l'équipe doit s'entraîner à la Bentley University à 20 km à peine de son lieu de vie. Les séances seront quotidiennes ou presque avec en tête donc l'entrée en lice contre le Sénégal mardi dans le New Jersey.
Et ce sera à vivre bien évidemment sur RMC, Valentin Jamin qu'on retrouvait en direct de Boston ce matin. Elles aussi iront à la Coupe du Monde au Brésil l'an prochain. Les joueuses de l'équipe de France de foot qualifiées hier soir après leur succès 1-0, c'était face à l'Irlande.
C'était le journal de Thibaut Texer, il est 7h08 sur RMC. Il s'appelait Alex, il avait 16 ans et il est mort l'an dernier pendant son stage de seconde. Il est mort donc pendant son stage de seconde en entreprise. Bonjour Arnaud Dartenay.
Bonjour.
Axel, c'était votre fils et depuis son décès, vous vous battez contre ces stages en entreprise pour les mineurs. Supprimons-les, c'est votre parti pris. Dans un instant, vous êtes venu avec la photo de votre fils. Les stages de seconde, ça commence lundi prochain. Vous qui nous appelez au 3216, venez donc témoigner, nous dire, vous êtes parent, vous êtes professeur, vous êtes chef d'entreprise. Ces stages de seconde utiles ou dangereux? Je vous attends bien sûr, 7h09.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h12 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Mort pendant son stage d'observation en entreprise, écrasé par des marchandises tombées d'un camion en train de décharger. C'était en juin 2025 et c'était votre fils. Arnaud Dartenay, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en studio avec nous ce matin. Axel avait 16 ans et depuis vous vous battez pour supprimer ces stages d'observation obligatoire pour les élèves de seconde. Pour vous, les enfants n'ont rien à faire dans l'entreprise, ce n'est pas leur place.
Non, ce n'est pas leur place. Et il faut savoir que ce stage de seconde générale a été mis en place juste pour les occuper pendant la période du bac. Juste pendant les 15 jours du bac, uniquement pour ça. Parce que l'éducation nationale ne sait pas quoi faire de nos enfants pendant ces 15 jours.
Donc, elle les envoie en stage. Vous distinguez bien ce qui relève des stages pour les bacs pro, par exemple, qui sont des stages véritablement de pré-embauche, en quelque sorte, ou en tout cas de travail à proprement parler, de ces stages d'observation de tous les élèves.
Les stages de bac pro, pour nous, ils sont importants, puisque l'enfant est en train d'apprendre un métier. Donc, il faut qu'il découvre aussi le métier. Mais les stages d'observation ne servent pas à grand-chose. Souvent, c'est très compliqué de trouver un stage. C'est souvent par le réseau familial, par les amis, par la famille. C'est des chefs d'entreprise que l'on connaît et qui disent bon bah ok, je le prends ton enfant pour te dépanner. Et malheureusement, pendant les stages d'observation, l'enfant ne peut rien faire du tout. Donc, en l'occurrence, pendant le stage du bac, pendant les 15 jours, l'enfant reste à côté du tuteur ou du maître de stage et ne fait rien. Regarde.
Comment ça s'est passé pour votre fils ?
Pour mon fils, l'accident est arrivé le deuxième jour, la fin du deuxième jour. Donc, on ne connaît pas vraiment ce qui s'est passé puisque l'enquête est encore en cours. Logiquement, ça devrait être fini début juillet au niveau de l'enquête, parce que du coup, il y a l'inspection du travail et la police qui est en cours. C'est ça aussi que j'arrive pas à comprendre, c'est que mon fils, moi, il travaillait pas, il avait pas de contrat de travail, il avait pas de salaire, et on parle d'accident du travail, de mort au travail. Et ça, pour moi, j'arrive pas à le concevoir, en fait.
Votre fils, il était scolarisé.
Oui.
Et donc, c'était effectivement dans ce fameux cadre du stage. Je le rappelle, c'est à partir de lundi que l'ensemble des élèves de seconde de France vont être donc pour 2 semaines dans ces stages d'observation dans toutes les entreprises de France. Le problème, et c'est ce que vous avez révélé aussi au fur et à mesure des enquêtes que vous-même vous avez menées, de ce travail aussi de recherche que vous avez mené, c'est que l'encadrement pour ces stages obligatoires d'observation n'est pas à la hauteur.
Mais en fait, moi, c'est suite à un constat. Je suis chef d'entreprise, j'ai pris des stagiaires. Il n'y a pas de préparation, il n'y a pas d'encadrement. Quelquefois, un appel téléphonique pour savoir comment se passe le stage, comment se comporte l'enfant. C'est même pas à savoir comment ça se passe exactement. Déjà, je trouvais ça inadmissible. Donc, depuis le décès d'Axel, c'est monté d'un cran, on va dire.
Vous-même, vous ne prenez plus, alors que vous êtes chef d'entreprise, vous ne prenez plus de stagiaires.
Non, parce que nous, ce que l'on veut, c'est qu'il y ait une réelle préparation au stage, c'est-à-dire que l'éducation nationale se déplace dans l'entreprise pour l'arrivée de l'enfant et qu'il puisse voir dans quelles conditions est reçu l'enfant, ce qu'il peut éventuellement faire, et qu'il y ait un réel suivi aussi pendant le stage, que l'éducation nationale se déplace dans l'entreprise.
Outre la mort de votre fils, Axel, selon les syndicats, il y a eu 6 mineurs qui sont...
Ce n'est pas selon les syndicats, ce sont les chiffres du ministre du Travail.
Ce sont les chiffres du travail.
Oui.
6 mineurs décédés l'an dernier pendant leur stage.
5 l'année dernière et 1 cette année, donc il y a eu Calvin au mois d'avril. Donc ça fait 6 mineurs en un an, en fait.
L'éducation nationale avait réagi, alors aussi à la mort d'un élève de lycée pro à Nîmes qui avait été écrasé par un chariot élévateur. Le ministre avait dit qu'il allait renforcer les conditions de sécurité. Vous y croyez ça ?
Du tout, parce que là, les enfants, ils repartent dans les stages la semaine prochaine et rien ne fait. Il n'y a aucune préparation, il n'y a rien.
Il n'y a rien. Je voudrais qu'on puisse donner la parole à Laurent qui vient nous appeler au 32-16 pour réagir. Laurent, vous êtes professeur, enseignant en sciences de l'ingénieur, justement, en Gironde, ces stages de seconde. Comment vous les vivez-vous du côté de l'éducation nationale ?
Alors nous, on le vit bien parce qu'il ne se passe rien. Comme le disait votre interlocuteur, pour nous, c'est complètement transparent. Enfin, nos élèves ont beaucoup de mal à trouver des stages. Moi, je suis comme votre interlocuteur, je trouve que ils n'ont rien à y faire, parce qu'à l'âge où ils ont, c'est pas l'idée du siècle de les envoyer dans une entreprise pour soi-disant découvrir quelque chose, alors que c'est juste pour les occuper. À un moment donné, on n'aurait pu les laisser 15 jours, on n'est pas 15 jours d'école dans une année. Et effectivement, après, il n'y a pas de suivi. Vous ne pouvez pas demander un suivi aux profs, parce qu'ils sont en train de faire passer les examens, donc qui irait en stage ? Les gamins, ils reviennent début juillet. Qui va leur faire passer une évaluation pour dire « Ah, on va faire un rapport de stage, ça va pas être faisable non plus », vous voyez ce que je veux dire. Et de toute façon, votre interlocuteur l'a bien dit, c'est une mesure qui a été inventée pour pallier quelque chose. De base, ça pouvait pas marcher. De base.
C'est-à-dire pour vous, c'était pour remplir, pour reconquérir le mois de juin, si je me souviens de l'expression.
Ouais, c'est ça, la fameuse reconquête du mois de juin.
Donc en réalité, c'est plus un bouche-trou qu'autre chose. C'est-à-dire que non seulement effectivement, Arnaud Dartenay le dit à l'instant, c'est dangereux, c'est une mise en danger de nos enfants, mais du point de vue de l'éducation et du professeur que vous êtes, c'est même pas utile.
Ah non, c'est complètement inutile. C'est-à-dire que ponctuellement, on vous dira « si, pour mon gamin, ça l'a permis d'eux ». Donc ponctuellement, vous trouverez un contre-exemple. Mais c'est des gamins qui n'étaient pas bien dans le système scolaire, à qui on proposait déjà des passerelles pour découvrir ou d'autres formations ou des métiers. Donc ponctuellement, on le faisait déjà, mais c'était ponctuel, vous voyez. C'est ciblé, c'est par rapport à un certain type d'élève. Là, vous envoyez tous les secondes, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est tous les secondes, vous les envoyez. Allez, hop, coup de pied aux fesses, vous allez faire un stage. Alors déjà, s'ils n'ont pas de réseau, ils n'en trouvent pas. On nous les laisse au lycée, on ne sait pas quoi en faire.
Et ça, c'est la grosse difficulté aussi, cette inégalité hein, des élèves dans la chasse aux stages. Une question aussi sur cette proposition de loi qui va être présentée aujourd'hui, précisément pour mettre fin au caractère obligatoire de ces stages. C'est-à-dire ne pas empêcher ceux qui souhaitent le faire et qui en ont la possibilité, mais ne pas le rendre obligatoire. C'est une initiative du député LFI Paul Vanier, qui est aussi très spécialisé désormais dans les questions d'éducation. C'est lui qui avait porté le combat sur Betarame. Vous soutenez cette initiative et cette proposition de loi?
On soutient complètement cette initiative. On y est cet après-midi avec lui et aussi une députée Smith qui va aussi présenter quelque chose au niveau européen pour mettre fin à ces stages obligatoires, en fait. Éviter de mettre la vie de nos enfants en danger, tout simplement. Et je voudrais aussi revenir sur le stage de seconde générale, c'est qu'il n'y a aucune vertu pédagogique, hein, puisqu'il n'y a aucun compte-rendu à effectuer de la part de l'enfant à la sortie du stage. Et au niveau de l'orientation, en fait, ça sert pour ainsi dire à rien, puisque l'orientation est déjà décidée en janvier et février. Donc les choix d'orientation c'est vraiment fini en juin, quoi.
Merci beaucoup, merci Arnaud Dartenay d'être venu défendre votre combat ce matin après la mort de votre fils Axel. Et merci à Laurent pour son témoignage. Laurent, professeur en Gironde, il est 7h19 sur RMC. N'hésitez pas à réagir au 32-16. Arnaud Demange dans un instant, Arthur Chevalier d'abord. Bonjour Arthur.
Bonjour Pauline.
Projet franco-allemand abandonné cette semaine, ce fameux avion. Et pourtant, nos deux pays travaillent depuis longtemps main dans la main.
Et oui, après la Seconde Guerre mondiale, la France et l'Allemagne ont même créé une armée en commun, une armée qui a défilé sur les Champs-Élysées, Pauline.
Vous allez nous le raconter dans un instant. Il y aura ensuite Arnaud Demange, je le disais, qui va venir pirater le face-à-face. Mon invité ce matin, c'est Éric Ciotti. Et puis, à 8h50, Mathieu, vous nous donnerez les dernières infos de la Coupe du Monde qui commence demain.
Est-ce que vous êtes équipé? Vous avez tous les maillots de foot, tout est prêt, en train de sécher, prêt à la maison, les cuisses, mais pas vous encore.
Ça reste dans le foyer.
Mais ça va venir, Apolline. Et puis les Bleus décollent aujourd'hui pour les US, on vous donne tous les détails ce matin.
On se retrouve dans 60 secondes sur RMC, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h21 et vous êtes bien sûr RMC et RMC Story. Enfin, il est 7h21, certes nous sommes en juin 2026, mais comme tous les jours, on remonte le temps avec Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
C'est officiel depuis le début de la semaine. Le projet d'avion de combat franco-allemand est abandonné et c'est un échec. D'abord qui a coûté beaucoup d'argent.
Eh oui, puisque depuis 2017, entre 1,5 et 1,8 milliards d'euros avaient déjà été dépensés pour ce projet. Ce projet, à l'origine, c'était une idée d'Emmanuel Macron et de la chancelière allemande Angela Merkel. Alors ça s'appelait le SCAF, hein, le système de combat aérien du futur. C'était tout un programme. Évidemment, c'était censé symboliser la souveraineté européenne, la coopération franco-allemande, sauf que pas de chance. Airbus et Dassault, les entreprises qui étaient missionnées sur cet avion, eh bien, n'ont pas réussi à s'entendre. Résultat, on arrête tout.
Est-ce qu'on peut parler du plus gros échec des projets franco-allemands?
Ah bah, d'un point de vue industriel, on peut clairement parler de ça, oui. Et jusqu'ici, pourtant, ça se passait pas si mal. Hein. Tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, on a travaillé ensemble. Le premier gros projet industriel franco-allemand, c'était dans les années 50. La France et l'Allemagne avaient décidé de mettre leur production de charbon en commun. Mais attention, il y avait un objectif caché, puisque contrôler le charbon, Apolline, ça revenait à contrôler la sidérurgie, donc à contrôler l'armement. C'était en fait un moyen de s'espionner mutuellement juste après la guerre.
La coopération va prendre une autre ampleur avec la création d'Airbus.
Alors Airbus, il faut bien comprendre que c'était un projet totalement fou à l'époque. En 1970, la France et l'Allemagne s'unissent pour construire des avions et fondent ensemble donc l'entreprise Airbus. Sauf que jusqu'ici, les Américains dominaient mais complètement ce marché. Donc c'était déjà un très gros défi de souveraineté européenne. En 1972, événement, le premier Airbus, c'était l'A300, décolle de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Hein, l'usine Airbus, est toujours là-bas. Depuis, Airbus est devenu leader mondial des constructeurs aéronautiques. 793 avions livrés en 2025 pour un bénéfice de 5,2 milliards. C'est une réussite totale.
Et qui a vraiment défié Boeing. La chaîne Arte, grand succès.
Grand succès. Alors Arte, ça date de 1992. Et alors Arte, c'est la chaîne de toutes les premières fois. Alors déjà, c'était une chaîne franco-allemande, ce qui était révolutionnaire. Mais c'était aussi une des toutes premières chaînes diffusées par satellite et la toute première chaîne consacrée à la culture. À l'époque, c'était très ambitieux. Et alors Arte, figurez-vous que ça veut dire quelque chose en français. C'est l'acronyme d'association relative à la télévision européenne, Arte. Et en allemand, eh bien figurez-vous que ça ne veut rien dire, Apolline. Tant pis pour eux.
De ce point de vue-là, nous avions gagné. En matière de défense, justement, qu'est-ce qu'on a fait avec l'Allemagne?
On a réussi à faire une armée. On l'a un peu oublié. Hein. En 1992, toujours, on crée Eurocorps, un corps d'armée avec des militaires français et allemands. On les base à Strasbourg. Et en 1994, donc 50 ans seulement après la Seconde Guerre mondiale, cette unité va défiler sur les Champs-Élysées pour le défilé du 14 juillet. C'est évidemment un symbole énorme de la réconciliation. Eurocorps, ça existe encore aujourd'hui. C'est 1000 soldats et ça regroupe plusieurs pays européens. Ils sont toujours à Strasbourg.
Merci Arthur Chevalier, Dankeschön. Une chronique à retrouver en podcast et sur le site de l'application RMC, 7h24, Arnaud Demange.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud.
Et bonjour.
À 8h30 tout à l'heure sur RMC et BFM TV, l'invité du face-à-face, c'est le président de l'UDR, maire de Nice, Éric Ciotti.
Oui, et avec lui, nous reparlerons évidemment de la justice pour les enfants, même si ça n'est pas un enfant, Éric Ciotti. Hein.
Ah oui.
Attention, les apparences sont trompeuses, mais non. En tout cas, il est super bien placé pour parler des dysfonctionnements de la justice. Il vient de la droite, des LR, du RN, des gens qui sont toujours dehors alors qu'ils auraient dû finir en prison. Il en connaît plein, des tonnes. Alors hier, Sébastien Lecornu a souhaité que les violeurs en série fassent de la prison à perpétuité. Donc voilà, attention les violeurs, Monsieur Lecornu n'est pas content. Voilà, il a froncé les sourcils, oui. Et il a des gros sourcils, donc il a foncé très fort. Alors, c'est super les gars, la perpète, c'est très bien. Une justice qui garde les gens en prison, c'est top. Ce serait juste pas mal qu'on ait une justice qui les mette en prison déjà. C'est-à-dire, la durée du séjour, je dis pas que c'est pas important, je dis juste que chronologiquement, je commencerai pas par là. Je commencerai par « ils y rentrent ». C'est un peu, au lieu de percevoir une peine de 5 ans, désormais vous allez percevoir une peine de 50. Vous voyez, à la limite, je trouve même que ça sonne mieux, ça fait presque récompense. Gérald Darmanin a demandé à la justice de reprendre 70 000 dossiers d'ici le 14 juillet. Alors c'est pas pour être négatif, mais quand tu vois qu'ils ont mis 3 ans à ne pas traiter un dossier en disant les délais sont intenables, 70 000 d'ici le 14 juillet, ça paraît vachement ambitieux quand même. En tout cas, Gérald Darmanin a exclu de démissionner. On réécoute son discours. Voilà. Donc en gros, son argument c'est les juges sont nuls, c'est pas ma faute. Oui, mais il y a des policiers qui n'ont pas été bons là-dessus et c'était vous le ministre. Ah oui, mais je suis à la justice maintenant. Chat-perché, pousse. Je suis dans mon camp. Moi, je veux bien quitter le ministère de l'Intérieur, mais c'est déjà fait. Il est malin. C'est un fin politique, Apolline. Le ministre a demandé à la justice de prioriser les dossiers impliquant des mineurs, mais sans oublier les autres affaires prioritaires.
Oui.
Oui, alors, du coup,
ça aussi, c'est compliqué,
c'est-à-dire, ouais. On priorise quoi ? Donc, on va prioriser ceux qui sont plus prioritaires par rapport à ceux qui sont hyper prioritaires, mais moins. Pour vous donner un exemple, un narco-pédophile, par exemple, c'est tout en haut de la liste.
Ah oui.
Alors, moi, j'ai demandé à une des 70 000 victimes s'il trouvait que la justice était trop lente. Il m'a répondu, « Oh, vous savez, jeune homme, c'est une bonne chose que ça s'agite un peu, parce que mon dossier, ça fait un petit moment qu'il traîne. Bon, je vous laisse, il y a mon projet pour maltraitance à l'EHPAD qui commence. » Effectivement, c'est très long ces histoires.
C'est
Allez,
sûr.
Rendez-vous avec Éric Ciotti à 8h30.
Éric Ciotti qui est donc mon invité à 8h30. Merci Arnaud.
Votre moment humour avec Seigneurie. Avec les peintures Seigneurie, vos chantiers prennent vie. Seigneurie, aux côtés des artisans peintres.
Quand on est entrepreneur, il y a ce moment...
Il est 7h27 et vous êtes bien sûr RMC et RMC Story. Dans un instant, la météo et le journal de 7h30. Juste après, Patrick Bruel qui sera présenté à un juge aujourd'hui. Fin de sa garde à vue, ça devrait être d'ici une heure maximum. L'artiste qui pourrait être mis en examen. Il y a déjà une trentaine de femmes qui dénoncent des viols, qui témoignent de tentatives de viol ou d'agression sexuelle. Au moins 13 plaintes. Et 5 qui sont dans les tuyaux. Nous ferons le point sur l'enquête avec la journaliste de Mediapart qui travaille sur ce sujet depuis 7 ans, Marine Turki. À 7h50, la voix de droite, Charles Consigny, il pense, comme l'avocat de la maman de la petite Rosa, que l'État est coupable de ne pas avoir suffisamment travaillé sur cette enquête. Et après l'affaire Liana, évidemment, rendez-vous donc avec Charles Consigny à 7h50. Il est 7h28, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Victor Pochet. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Aveu d'échec du patron de la gendarmerie et remise en cause de la prescription pour les crimes sexuels sur mineurs. L'affaire Liana rebat les cartes de la justice et force le gouvernement à dégainer des annonces. Pendant que les Bleus du foot se préparent à décoller pour le mondial en Amérique, le casse-tête des mairies pour installer des fan zones sécurisées jusqu'au bout des nuits des matchs. Et puis ces deux mots, test Cédric, apparus sur les smartphones des clients Crédit Agricole et qui ont provoqué le plantage généralisé de l'application de la banque hier.
La réponse cinglante de l'avocat de la famille de Liana à Emmanuel Macron.
Oui, monsieur le président, les moyens qu'on accorde à la justice sont le vrai cœur du problème. Ce sont ces mots, alors qu'au début de l'affaire, le chef de l'État avait balayé l'accusation de manque de moyens. Autre réaction rare, elle était hier soir, celle du patron de la gendarmerie, elle, qui est pointée du doigt, accusée de ne pas avoir agi assez vite malgré les plaintes qui visaient Jérôme Barella. Aux 20h de TF1, Hubert Bonneau reconnaît une faillite.
Ce sujet est un sujet délicat, sensible, et je dirais d'entrée que c'est un échec pour la gendarmerie. Je représente aujourd'hui l'ensemble des gendarmes de France, et je pense qu'ils le vivent véritablement comme un échec, parce que on ne rentre pas dans la gendarmerie nationale par hasard. On y vient par conviction, par volonté de protéger nos concitoyens, protéger les plus faibles. Et au final, quand dans nos opérations, cela se traduit par de la mort ou de la souffrance, oui, je peux dire que c'est un échec.
Alors, pour réagir à cet échec, le Premier ministre a dégainé de premières propositions de mesures. Parmi elles, la question de la fin de la prescription revient sur la table. Sa suppression pour les crimes sexuels sur mineurs, c'est une demande de longue date des associations. Le chef du gouvernement va recevoir des parlementaires cette semaine pour y réfléchir. Thomas Becker, l'idée, elle fait son chemin à l'Assemblée nationale.
C'est une priorité, estime Perrine Goulet. La députée centriste a d'ailleurs déposé une proposition de loi pour mettre fin à la prescription des crimes sur les mineurs, co-signée par 90 députés de tous bords politiques.
Enfants, on n'y touche pas. Est-ce que notre société aujourd'hui est encore capable d'accepter que vous croisiez l'auteur des viols pour lesquels vous avez, été détruite pour toute votre vie, vous le croisez sur le trottoir, lui n'est pas condamné.
De son côté, le député LR Philippe Juvin estime que l'urgence n'est pas de mettre fin à la prescription.
Le vrai sujet, c'est pourquoi on a des dizaines de milliers de plaintes aujourd'hui qui ne sont pas instruites. La prescription, quand on aura à se poser cette question, c'est qu'on aura déjà avancé.
La députée insoumise Gabrielle Catala y voit une manœuvre du gouvernement pour éviter de donner des moyens supplémentaires.
J'aimerais d'abord qu'on regarde tout ce qui est sur le plan social, sanitaire, tout ce qui permet de prévenir les violences avant de regarder ce qui permet ensuite de les condamner.
Reste la question juridique. Plusieurs députés RN et du Bloc central estiment que la mesure sera retoquée par le Conseil constitutionnel. En France, il n'y a aujourd'hui que les crimes contre l'humanité qui sont imprescriptibles.
Thomas Becker du service politique de RMC. Plus qu'une heure avant la fin de la garde à vue de Patrick Bruel, le chanteur est entendu depuis lundi sur les accusations de viol et d'agression sexuelle qui le visent. Il doit passer aujourd'hui devant un juge d'instruction qui décidera d'une éventuelle mise en examen. Nouveau regain de tension au Moyen-Orient. Les États-Unis ont frappé cette nuit des installations iraniennes au bord du détroit d'Ormuz. Des représailles après la destruction d'un hélicoptère américain dans le secteur. Riposte de Téhéran. Ce matin, une base américaine a été visée à Bahreïn, le Koweït et la Jordanie ont également été ciblées. Une journée de galère en gare s'annonce aujourd'hui. 4 syndicats de la SNCF sont en grève. Conséquence, un tiers des TGV sont supprimés, la moitié des intercités et le trafic régional est fortement perturbé. C'est en avion que les Bleus du foot vont eux décoller pour les États-Unis. Aujourd'hui, la Coupe du Monde en Amérique commence demain. Leur premier match à nos Bleus, ce sera mardi soir. Vous espériez peut-être le voir dans une fan zone et avec les débordements le soir de la victoire du PSG en Ligue des Champions. Elles deviennent un enjeu de sécurité. Exemple à Saint-Ouen, en région parisienne, Aurélien Tiercin.
À Saint-Ouen, au nord de Paris, la fan zone sera privée dans une halle géante, mais soutenue par la mairie. Et ce cadre rassure les fans de foot.
Selon moi, je trouve que c'est plus sécurisé que être sur les champs, dans la rue et tout. Bah ouais, je trouve que c'est mieux.
2500 supporters sont attendus chaque jour dans la fan zone. Son gérant, Valentin Durand, doit adapter malgré tout son dispositif de sécurité.
Forcément, dès qu'on a un match un peu plus conséquent, un match où on atteint des jauges de 2000-2500 personnes, on va se retrouver avec de la sécurité qui filtre aux entrées, qui permet de faire en sorte de fouiller les sacs pour que toutes les personnes se sentent totalement en sécurité à l'intérieur.
Une fan zone ouverte jusqu'à minuit, voire beaucoup plus tard pour les gros matchs en nocturne. Le maire de Saint-Ouen, Karim Bouamran, est ouvert à l'idée d'autoriser ces dérogations.
Faut qu'on regarde parce que là, c'est la relation avec la police, le voisinage, à quelle heure le public sort, l'impact, on va regarder. Mais cas typique, il va falloir s'adapter pour les matchs qui sont en plein milieu de la nuit.
Ce devrait être le cas notamment pour le match Algérie-Argentine, coup d'envoi à 3h du matin dans la nuit de mardi à mercredi prochain.
Et les Bleus, au féminin, cette fois, vont aussi pouvoir penser au Mondial. Elles se sont qualifiées hier soir pour la Coupe du Monde au Brésil l'année prochaine en battant l'Irlande 1-0. Et puis, vous avez peut-être reçu cette notification étrange hier après-midi sur votre téléphone. Si vous êtes client du Crédit Agricole, une simple alerte intitulée test, Cédric, mais avec des conséquences en cascade, Romain Hoog.
Oui, c'est une notification qui devait rester en interne. C'était un test, sauf que voilà, 10 millions de clients de la banque ont reçu cette alerte énigmatique avec pour seul message « Test Cédric ». Alors forcément, quand vous recevez ça sur votre téléphone, ça donne envie de cliquer et c'est ce qu'ont fait de très nombreux utilisateurs. Tous en même temps, il n'en fallait pas plus pour faire crasher l'appli. L'affluence inhabituellement élevée générée par cet envoi a généré des difficultés d'accès à certains services, explique le Crédit Agricole. Résultat, impossible d'accéder à l'application, voire au site internet. Impossible non plus de consulter ses comptes pendant plusieurs heures. Sur les réseaux sociaux, les internautes s'en sont donnés à cœur joie, certains s'inquiétant même que le fameux Cédric ne puisse perdre son travail. Que nenni, assure la banque, qui a bien sûr surfé sur le buzz généré par cette erreur. Sur X, elle s'est renommée Cédric Agricole. Accompagnée de ce message, quand on est la première banque des Français, on ne laisse personne tomber, et surtout pas Cédric.
Les explications de Romain Hoog pour RMC.
Et puis le quintet, c'est à Caen aujourd'hui.
Départ 18h30, voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Son favori, c'est l'As Cara Def. L'outsider, c'est le numéro 5, Kennedy Street. L'As et le 5.
C'était
le
journal de Victor Porcher. Il est 7h37 sur RMC. On part au 32-16. Vous êtes nombreux à réagir au témoignage de ce père de famille qui a perdu son fils lors d'un stage d'observation de seconde l'an dernier. Olivier est avec nous, qui nous appelle d'Ille-et-Vilaine. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour.
Vous êtes formateur vous-même, hein, justement, d'élèves.
Oui, c'est ça. Donc nous, on a des jeunes qui, dès la quatrième, vont en stage. Alors c'est un système un peu spécial. Je suis dans ce qui s'appelle une MFR. Donc des jeunes qui sont en alternance.
Okay.
Et qui, justement, dès l'âge de 14 ans, font des stages. Donc okay. Ça leur permet de découvrir les métiers. Alors nous, on est hyper vigilants sur le côté avec l'accompagnement justement des maîtres de stage. On visite les maîtres de stage, mais surtout le chose sur lequel on invite les maîtres de stage avec l'inspection du travail, la MSA, Groupama, justement sur tous les risques qu'il y a en stage.
Mmh. Alors, donc vous alertez pour le coup. Vous avez entendu le père d'Axel, oui, il dit en fait, il faut carrément supprimer les stages d'observation. Vous vous dites non, si on les accompagne, si on les encadre, c'est possible?
Oui. Alors, je vais être franc, on a blacklisté des lieux de stage. Parce que malheureusement, dans les entreprises, il manque du personnel. Et les jeunes, éventuellement, se retrouvent justement sur des lieux de stage où ils doivent faire des tâches qu'ils ne devraient pas faire. Après, ils sont là dans la découverte. Ils sont pas là, justement, dans l'action, normalement.
Donc, normalement, ils doivent pas manipuler, ils doivent pas se retrouver à un endroit dangereux.
Voilà. Et donc, ce qui est aussi important, c'est que, normalement, dans tout lieu, dans toute entreprise, il y a ce qu'on appelle le DUR, le document unique d'évaluation des risques, que toute entreprise doit avoir, que tout le monde doit pouvoir consulter lorsqu'il arrive dans une entreprise.
Donc pour vous, ne supprimons pas les stages, mais faisons en sorte en effet de les accompagner le mieux possible, de les entourer. Merci beaucoup Olivier pour votre témoignage. Olivier Bossé, Île-de-France, qui est donc formateur précisément pour ces jeunes en Ille-et-Vilaine. Il est 7h39.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 7h39 et au moment où l'on se parle, Patrick Bruel est toujours en garde à vue. Il devrait être présenté ce matin à un juge. Patrick Bruel qui pourrait être mis en examen pour viol et agression sexuelle. Bonjour Marine Turki.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Mediapart. C'est vous qui avez sorti les premières accusations concernant Patrick Bruel. Vous travaillez et vous enquêtez depuis 7 ans maintenant. Quelle suite judiciaire pour le chanteur? Combien de plaintes? Combien de témoignages? Vous nous expliquez tout dans un instant. 7h40.
RMC. Jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h43 et vous êtes bien sûr RMC et RMC Story. Au moment où l'on se parle, Patrick Bruel est toujours en garde à vue. Il devrait être présenté ce matin à un juge. La garde à vue qui se termine dans moins d'une heure maximum. On saura ensuite s'il est mis en examen ou incarcéré. Bonjour Marine Turki.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Mediapart. C'est vous qui avez révélé les premières accusations concernant Patrick Bruel. Vous travaillez, vous enquêtez depuis 7 ans sur ce dossier. 30 témoignages de femmes dont certaines racontent des viols. Les premières plaintes dès 2019. Et Patrick Bruel qui est donc en garde à vue pour la première fois. Et c'est seulement depuis 48 heures. Pourquoi tout ce temps ? Mais tout ce temps parce que déjà la justice a envoyé un signal quand même assez négatif en classant sans suite en 2019 malgré le témoignage de 9 femmes. On a raconté ça sur Mediapart. Moi j'ai enquêté depuis fin 2018. À l'époque c'était pas le moment pour ces femmes de parler parce que personne ne voulait être la première à se jeter à l'eau. C'est vertigineux de mettre en cause la plus grande star de la chanson française. Donc j'ai continué de travailler, j'ai récolté d'autres témoignages et au mois de mars, donc 7 ans après, on a été en mesure à Mediapart de publier les témoignages de 8 femmes et parmi elles, pas n'importe qui, Danielle Elsner, la patronne d'Unifrance, institution phare du cinéma français. Elle a été un peu la locomotive de cette première enquête. Ensuite, j'ai révélé 15 nouveaux témoignages, dont des accusations très graves, vous l'avez dit, des accusations de viol, mais aussi 2 accusations de soumission chimique sur ces 15 femmes. Dans ces 15 femmes, il y avait Flavie Flamand. Elle était anonyme. Elle est sortie du bois une semaine après en disant... Eva, c'était son pseudonyme, c'était moi. Et c'est elle qui a permis ce tournant dans l'affaire et cette grande enquête judiciaire qui est actuellement en cours au parquet de Nanterre.
Et ça n'est pas fini, parce qu'effectivement, comme vous le dites, c'est aussi une question à un moment d'oser parler. Certaines ont besoin qu'une femme comme la patronne d'Unifrance, qu'une femme comme Flavie Flamand, en quelque sorte, leur donne le sentiment qu'elles peuvent, elles aussi, être légitimes à s'exprimer. Depuis 2 semaines, d'autres femmes appellent vous-même ou des avocates pour se signaler, pour dire mais moi aussi j'ai vécu ça. À la fin, on arrive à combien de plaintes, combien de témoignages pensez-vous ?
Alors moi j'ai révélé 25 témoignages dans la presse au total, y compris chez nos confrères belges d'ailleurs, il y en a 30 des femmes qui ont accusé Patrick Bruel de violences sexuelles et sexistes. Plusieurs se sont manifestées auprès de la justice, pas forcément par des plaintes mais aussi par des signalements, elles ont été pour certaines auditionnées. Donc aujourd'hui c'est très difficile de donner un chiffre. Le parquet de Nanterre actuellement a 13 cas qui sont présentés à Patrick Bruel lors de sa garde à vue, mais d'autres femmes se sont constituées partie civile. Flavie Flamand par exemple, cette plainte n'est pas encore remontée à Nanterre, elle a été déposée auprès du doyen des juges d'instruction à Paris. Donc au total, on est à beaucoup plus que 13 femmes, c'est certain, et peut-être autour de plutôt 18 ou 20 cas qui seront ensuite présentés à Patrick Bruel. Il faut expliquer que bien sûr, il nie toutes ces accusations, mais ce qui est intéressant, c'est que la particularité, le point commun de tous les témoignages que j'ai recueillis, malgré des gravités bien différentes qui sont dénoncées, c'est un homme qui ne se soucierait pas de leur consentement. C'est ça qu'elle dénonce. Elle dénonce quelqu'un qui se serait jeté sur elle avant qu'elle n'ait eu le temps de réagir, de dire oui ou non. Lui, il dit qu'il n'a jamais outrepassé un refus de ces femmes. Ce sera sa parole contre celle de ces 30 femmes. Donc on n'est pas dans un parole contre parole. On est dans un parole au pluriel, celle de ces femmes, et la parole du mis en cause, Patrick Bruel, et on verra ce qu'il a déclaré en garde à vue.
Avec notamment dans des modus operandi, comme on dit, c'est-à-dire dans la manière dont ça se passe, des similitudes. Lorsque ces femmes lui résistent, elles disent, plusieurs d'entre elles en tout cas, qu'alors il devient agressif et leur dit « mais c'est ça, alors si tu veux pas, bah casse-toi ». Cette expression aurait été... entendu à plusieurs reprises par des femmes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et qui se sont exprimées parallèlement.
Oui, et puis aussi des phrases comme ça doit rester entre nous ce qui vient de se passer, ça c'est ce qui revient dans plusieurs témoignages que j'ai pu recueillir. Et il y en a d'autres qui disent qu'il a essayé de se venger. L'une, par exemple, était esthéticienne à Monaco aux Thermes Marins. Elle dit qu'il a pris son numéro dans la salle de pose des esthéticiennes, qu'elle a commencé à lui envoyer des textos et qu'elle n'a jamais donné suite à ses invitations, à ses demandes, et qu'ensuite elle a été convoquée, dit-elle, par la patronne à l'époque des Thermes Marins et qu'on lui a demandé, on lui a donné un avertissement disant que Patrick Bruel se plaignait qu'elle le harcelait. Ça, c'est des témoignages qu'on a recueillis. Donc, est-ce qu'il entend le nom Patrick Bruel ? C'est la question qui est posée dans cette procédure aujourd'hui.
Et c'est évidemment à cette question qu'il devra répondre. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? C'est-à-dire là, dans l'heure qui vient, il est 7h48, avant 8h30 tout à l'heure, la garde à vue doit être absolument terminée. Quelle est la suite ?
Ce qu'on sait, c'est que Patrick Bruel va être présenté à un juge et on verra ce que demande le parquet dans son réquisitoire introductif. Est-ce qu'il va demander la mise en examen ? Si oui, pour combien de cas ? Je rappelle que là, il est questionné sur les cas de 13 femmes. Donc, on verra ce qui peut se passer. Ensuite, il peut y avoir plusieurs options. Un placement en détention provisoire ou bien plutôt un contrôle judiciaire qui pourrait, par exemple, interdire de sortir du territoire ou qui pourrait, par exemple, prendre des mesures à titre conservatoire. Dans le cas du chanteur Jean-Luc Lahaye, par exemple, il avait été interdit de se produire en concert parce que c'était dans ce cadre qu'auraient eu lieu les infractions présumées pour lesquelles il était mis en examen à l'époque.
Donc ça veut dire que par exemple le juge pourrait dire écoutez en attendant la tenue du procès et pendant qu'on recueille les différents témoignages, plaintes, éléments, vous n'avez pas le droit par exemple à ce moment-là de vous produire, que ce soit au théâtre ou en concert. On sait qu'il a annulé une partie de ses concerts. Est-ce que ça veut dire qu'il anticipait aussi cette question-là peut-être ?
C'est tout à fait possible que Patrick Bruel, sachant en plus qu'il était convoqué dans le cadre de cette garde à vue...
Oui, parce que cette garde à vue, c'est important de le repréciser. Oui. En effet, elle a commencé donc il y a 48 heures, mais c'est un rendez-vous qui lui avait été fixé. Les policiers...
Il n'a pas été arrêté le chercher ce matin chez lui, c'était une date convenue, donc il a eu le temps de se préparer pendant une semaine, il me semble. Donc est-ce qu'il a anticipé cette question en annulant lui-même sa tournée? C'est une question qui se pose. En tout cas, la justice, elle prend parfois des mesures à titre conservatoire avant la fin de la procédure judiciaire, et ça n'enfreint pas la présomption d'innocence qui continue de s'appliquer.
Tout cela n'a évidemment rien à voir, sauf le calendrier, avec l'affaire Liana, mais évidemment la concomitance en ce moment sur la question de la célérité, de la précision, de la volonté véritablement de la justice d'aller vite. Est-ce que vous vous dites aujourd'hui, là, en ce moment, on est dans un moment de prise de conscience à la croisée de beaucoup de chemins?
Je crois qu'aujourd'hui, la justice est en train de prendre le miroir qu'on lui tend. Ses affaires tendent ce miroir-là. D'autres l'avaient fait avant. Adèle Haenel avait dit, j'ignore la justice, nous ignore, on ignore la justice. Donc c'est quelque chose qu'on voit dans nos enquêtes. Les gens disent, ça sert à quoi de porter plainte? Aujourd'hui, cette question, elle est renvoyée à la justice parce que dans l'affaire Bruel, il y a visiblement eu un dysfonctionnement. 9 femmes, je rappelle, s'étaient manifestées à la justice en 2019. L'affaire a été classée en 2020. Assez rapidement, alors qu'il y avait des modes opératoires qui se dessinaient dans ces témoignages. Il y avait des similarités de femmes qui ne se connaissaient pas aux quatre coins de la France, notamment des femmes qui travaillaient comme masseuses dans des instituts de soins, mais pas seulement, une chanteuse en début de carrière qui dénonçait une tentative de viol à son domicile à Neuilly. On retrouve 3 lieux, les loges des concerts, des théâtres, du cinéma, son domicile, vous l'avez dit tout à l'heure, et puis les cabines de massage, ce sont les 3 lieux qu'on retrouve.
Merci beaucoup Marine Turki d'avoir fait le point avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes journaliste à Mediapart et que vous êtes celle qui avait révélé les premières accusations et vous travaillez sur cette enquête depuis plus de 7 ans. Il est 7h51 et justement on parlait à l'instant de la justice et de sa manière d'avoir traité l'affaire Liana. Bonjour Charles Consigny.
Bonjour.
Des magistrats et des enquêteurs paresseux, voilà les mots très forts de l'avocat de la maman de la petite Rose, celle qui avait porté plainte contre Jérôme Barella en août dernier pour plusieurs viols. Est-ce que votre confrère, je rappelle que vous êtes avocat, Charles, a raison?
Oui, je serai très confraternel sur ce point. Je pense qu'il a raison et qu'il y a besoin d'une remobilisation générale.
Vous le dites dans un instant, la voix de droite sur RMC, il est 7h51.
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche.
Voix de droite.
Il est 7h53, c'est mercredi, et le mercredi c'est la voix de droite. Bonjour Charles Consigny.
Bonjour.
Charles, l'avocat de la maman de Rosa, qui accuse Jérôme Barella d'avoir violé sa fille alors qu'elle avait 12 ans, s'en prend à la justice. Elle avait déposé plainte, cette plainte n'avait été suivie alors que certaines preuves avaient été apportées d'aucune conséquence vis-à-vis de Jérôme Barella. Cet avocat, il dénonce des magistrats et des enquêteurs, je cite, paresseux. Vous êtes d'accord avec lui? La justice, pour vous, Charles, doit se remettre au travail.
Alors, d'abord, je comprends sa colère, puisque comme ça a été exposé ces derniers jours dans les médias, la mère de la petite Rosa relançait régulièrement les gendarmes chaque lundi, sauf erreur de ma part, et elle a fini par être menacée par ces gendarmes d'être visée elle-même par une plainte pour harcèlement, tellement ils en avaient marre qu'elle appelle. Et tout ce qu'ils avaient à lui répondre, c'était « c'est en cours ». Sauf que ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, rien du tout n'était en cours, et que... Pire que cela, les déclarations de la petite fille avaient été confirmées par un examen gynécologique sans que ni elle ni sa mère ne soient informées de cette de cette avancée déterminante en réalité dans l'enquête, parce que c'est une preuve très importante de la véracité du récit de la plaignante dans ce cas-là. Donc je comprends sa colère et ensuite. Je pense qu'il y a un tabou là-dessus, parce que à les entendre, tout le monde est totalement sous l'eau, débordé, manquant de moyens, etc. Moi, ce que je vois dans ma pratique d'avocat, et je sais que je ne vais pas me faire des amis en disant ça, c'est des guichets qui sont fermés à 16 heures, c'est des guichets qui ferment à 15 heures le vendredi. C'est un palais de justice qui se vide comme un seul homme à 16h45. C'est des gens qui sont en télétravail, des greffiers, des magistrats, alors qu'on doit faire certaines démarches physiquement au palais. On nous explique qu'on est en télétravail. Ce sont des gens qui prennent toutes les vacances scolaires. Donc moi, je veux bien que certains travaillent beaucoup. Je n'ai aucun doute là-dessus. Je suis sûr que certains travaillent énormément.
Pour le coup...
Je suis sûr qu'il y a des juges d'instruction qui travaillent beaucoup, des procureurs notamment qui travaillent beaucoup et des policiers qui travaillent travaillent beaucoup, j'ai aucun doute. Mais je pense qu'il y en a aussi qui sont démobilisés. Et je crains que cela vaille en réalité pour tout notre pays. C'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'on est victime en France d'une espèce de démobilisation générale, où on s'est tous laissés tranquillement glisser des 35 heures au RTT, des RTT au télétravail et en gros du télétravail à la glandouille. Et ben je pense qu'il faut se remobiliser.
Se remobiliser, pour vous, ça a ensuite les conséquences que l'on connaît et le drame de l'affaire Liena. Mais en même temps, quand on regarde concrètement le nombre de dossiers, en Europe, 4 fois plus de magistrats en moyenne qu'en France, dans le reste des pays européens. Ça, c'est pas un problème de temps de travail, c'est aussi un problème de moyens, mais même de moyens humains.
Alors, il faut savoir ce qu'on veut. Le budget de la justice, c'est 10 milliards d'euros par an. Le budget de la protection sociale, c'est 650 milliards d'euros par an. Donc moi, par exemple, la gauche qui pleure des larmes de crocodile sur ce cas dramatique, elle peut se regarder le nombril, parce que c'est elle qui a voulu qu'on revienne sur la réforme des retraites. Si on fait des réformes des retraites, on se dégage des marges de manœuvre budgétaires pour mettre de l'argent ailleurs. De même, si on est un tout petit peu plus regardant sur l'assurance chômage, par exemple, combien il y a de jeunes qui font le tour du monde grâce à leurs allocations chômage. Faut quand même arrêter un petit peu le délire aussi de ce côté-là. On rembourse des séances de psychologues. Est-ce que ça sert à quelque chose? Je salue nos amis psychologues. Je propose le déremboursement total de toutes les séances de psychologues. Il faut arrêter le délire. Soit on veut avoir un système qui fonctionne, un État qui fonctionne, avec une justice qui fonctionne, une police qui fonctionne, une école qui fonctionne, un hôpital qui fonctionne. Et dans ce cas-là, on fait des choix budgétaires sérieux et courageux. Soit on continue dans cette espèce de laisser-aller généralisé, et il ne faut pas s'étonner si on a une justice et un hôpital digne de la Moldavie.
Merci Charles. Charles Consigny, la voix de droite ce matin. Demain, ce sera la voix de gauche à votre place. Cécile Duflot, il est 7h58. Restez bien avec nous. Dans un instant, la météo et le journal, et à la une du journal, plus qu'une demi-heure de garde à vue pour Patrick Bruel. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.